You're with SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 15 octobre 2019. L'offensive turque contre les Kurdes de Syrie a commencé, elle ne fait pas dans le détail, des civils mais aussi des journalistes ont été tués par des bombardements. Au Japon, les autorités commencent tout juste à mesurer l'étendue des dégâts provoqués par le typhon Hagibis. C'est le typhon le plus puissant depuis 60 ans qui s'est abattu sur le Japon. Et en Espagne, les indépendantistes catalans qui avaient organisé en 2017 un référendum sur la sécession de la Catalogne avec le reste de l'Espagne ont été condamnés à de lourdes peines allant de 9 à 13 ans de prison. L'offensive de l'armée turque en Syrie contre les Kurdes a commencé en dépit de la désapprobation de la quasi-totalité de la communauté internationale. Une offensive violente et meurtrière qui a également tué des civils et des journalistes. C'est ce que confirme le docteur Ahmed Ibrahim qui officie dans un hôpital de la région ciblé par l'armée turque.
Nous avons reçu de nombreux blessés. Plus de 50 personnes ont été réparties dans les hôpitaux de Kamishlo aujourd'hui. Ici, à l'hôpital Ferman, nous avons pris en charge 14 blessés. Presque tous sont brûlés. Ils ont été la cible des bombardements alors que ce sont juste des civils. J'insiste là-dessus, des bombes turques sont lâchées sur des civils. Ils ont massacré des innocents. Civils ou soldats, l'armée turque ne fait pas la différence. Leur seule ambition, c'est de détruire le développement du Rojava dans cette région du nord-est syrien.
Des propos recueillis par le correspondant de RFI, Sami Boukhelifa, et qu'on félicite puisqu'il a reçu samedi le prix Bayeux des correspondants de guerre pour sa couverture du conflit en Syrie. Et pour revenir donc à l'attaque kurde, turque contre les Kurdes, elle est donc dénoncée par la communauté internationale et notamment par les États-Unis qui promettent des sanctions économiques à Ankara. Dans une interview à Fox News, le sénateur américain Lindsey Graham, plutôt proche de Donald Trump, a vivement critiqué le président Erdogan.
Je vais rencontrer le président cet après-midi. Je travaille avec les démocrates et les républicains au Congrès pour sanctionner la Turquie, car c'est la Turquie qui est à blâmer. Il y a trois semaines, j'ai rencontré le président Erdogan en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et nous avons constaté que la zone de sécurité qui maintenait les Turcs et les Kurdes à distance à l'aide d'une force internationale fonctionnait. Une semaine après, il m'a menti. Il a téléphoné au président Trump. Le reste est déjà de l'histoire ancienne. La situation se détériore rapidement en Syrie et je blâme la Turquie. Il va y avoir de sévères sanctions imposées par le Congrès. Erdogan a fait la plus grosse erreur de sa vie politique et nous allons briser son économie jusqu'à qu'il cesse ce bain de sang. Erdogan a mal jugé le président Trump. Notre objectif numéro un est de mettre un terme au bain de sang, de punir la Turquie et de nous assurer que la Russie, la Corée du Nord et l'Iran observent la manière dont le président Trump règle les affaires. S'il punit Erdogan, un allié sur le papier, cela enverra un signal qu'il y a un nouveau shérif en ville.
Direction maintenant le Japon, où le bilan du passage du typhon Hagibis ne cesse de s'alourdir. On dénombre désormais 48 victimes, mais d'autres pourraient encore être découvertes alors que les autorités japonaises commencent tout juste à dresser le bilan des dégâts. On fait le point sur place avec Frédéric Charles de RFI.
L'étendue des dégâts commence tout juste à apparaître. Beaucoup de zones dans les régions de Nagano et de Fukushima sont encore sous les eaux, avertit la chaîne de télévision NHK. Le Japon mobilise son armée, plus de 30 000 soldats, dans les régions où le typhon a déversé jusqu'à près d'un mètre de pluie en l'espace de 24 heures. Seule l'armée japonaise est en mesure de lutter contre le débordement d'une vingtaine de rivières dans le centre et l'est du pays, comme elle l'a déjà fait lors du tremblement de terre et du tsunami géant de mars 2020. 2011. Le gouvernement central et les autorités locales ne sont pas à la hauteur de la situation. Une opération de sauvetage menée par un hélicoptère de la sécurité civile a tourné au drame lorsqu'une septuagénaire est tombée de la nacelle à la suite d'une erreur des secouristes. De nombreuses habitations emportées par les eaux ou des glissements de terrain ont été construites dans des zones bordant des rivières et considérées comme à haut risque par les autorités japonaises. À Tokyo, la situation est redevenue normale. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Et maintenant, on prend la direction de la Chine, où les autorités se félicitent de l'obtention d'un préaccord avec les États-Unis qui pourrait signifier la fin prochaine de la guerre commerciale. Mais en attendant, les États-Unis ont mis en place de nouvelles sanctions qui visent quelques grandes entreprises chinoises œuvrant notamment dans le domaine de la sécurité et que Washington a décidé de punir car elles auraient tiré profit de la répression infligée par Pékin à la communauté ouïghour. Les explications d'Olivier Roger pour RFI.
Hikvision est la première et la plus grande société visée par Washington. Numéro 1 mondial des équipements de vidéosurveillance, c'est l'entreprise qui a le plus bénéficié de la politique sécuritaire de Pékin dans la province du Xinjiang. Ses caméras de surveillance sont omniprésentes en Chine et depuis 2017, Hikvision a remporté au moins 5 grands contrats liés à la sécurité au Xinjiang. Deux sociétés travaillant dans l'intelligence artificielle sont elles aussi dans le collimateur américain, Mengvi et SenseTime. Leur solution logicielle de reconnaissance faciale servant aux autorités à ficher les Ouïghours, selon Washington. Ces deux sociétés ont pourtant des liens capitalistiques et technologiques avec des universités et des fonds d'investissement américains, SenseTime possédant même un laboratoire au sein du prestigieux Massachusetts Institute of Technology. 5 autres entreprises, Dahua, Meiyapico, Yitu, eFlytech et Yixing, opérant dans la reconnaissance faciale, vocale et la surveillance, sont elles aussi sur la liste. La plupart de ces entreprises s'étonnent de la décision américaine et prévoient déjà de remplacer localement les composants que les entreprises américaines ne peuvent désormais plus leur vendre.
Allez, on prend la direction de l'Europe maintenant et on commence par l'Espagne où la Cour suprême a lourdement condamné les indépendantistes catalans qui avaient tenté de faire sécession en 2017 en organisant un référendum en Catalogne. Donc leur leader, Carlos Puigdemont, est lui en exil en Belgique, mais les membres de son mouvement qui ont été arrêtés et jugés ont été condamnés à des peines de 9 à 13 ans de prison, des peines très lourdes qui ont déclenché des manifestations à Barcelone. Pour Dominique Noguer, qui est la vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme, ces condamnations sont avant tout politiques.
C'est certainement un procès politique, parce que de toute façon, la question de l'indépendantisme en Espagne, enfin catalan en Espagne, est une affaire hautement politique. Ils n'ont pas réussi en Espagne à régler la question politiquement, ils essayent de la régler par la voie judiciaire. Il y a aussi un élément qui montre que c'est très politique, c'est que même si la constitution espagnole le permet, il y avait une partie civile très particulière hein, dans ce procès, qui était quand même un parti d'extrême droite, qui est Vox, et qui a été là pendant tout le temps du procès et qui réclame d'ailleurs les peines les plus lourdes. La nomination même des membres de ce tribunal pose problème parce que c'est un tribunal qui est politique, qui est nommé par des politiques avec des représentations de l'ensemble des partis politiques espagnols. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions sur l'impartialité, sur toutes ces questions-là qu'on a soulevées dans le rapport parce qu'on a été quand même très très étonnés de la manière dont ça s'est déroulé.
Et c'était donc Dominique Noguer qui était interrogé par Béatrice Léveillé pour Radio France Internationale. On fait maintenant un détour par la Grande-Bretagne puisque la reine Elisabeth II a prononcé un discours hier. Elle a abordé notamment la question du Brexit qui doit avoir lieu à la fin du mois. La reine d'Angleterre a en gros voulu rassurer et préciser que le gouvernement britannique veillait à négocier un nouveau partenariat avec l'Union européenne. On l'écoute.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation.
Et puis le Vatican éreinté par un nouveau scandale. Hier, Domenico Gianni, qui est le chef de la sécurité du Saint-Siège depuis 2006, a annoncé sa démission après avoir été impliqué dans la fuite d'une note interne révélant un scandale financier. La démission de Domenico Gianni, qui était auparavant membre des services secrets italiens, intervient quelques jours après une perquisition menée par la police italienne au Vatican et après l'apparition dans la presse d'une note interne signée par celui qui était surnommé l'ange gardien du pape. Le Vatican a pour sa part indiqué que Domenico Gianni n'avait aucune responsabilité subjective dans cette affaire, mais qu'il avait présenté sa démission, je cite, pour « garantir la sérénité nécessaire à la poursuite des enquêtes ». Allez, un mot rapide de sport maintenant pour signaler le match nul hier soir entre la France et la Turquie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020 de football. Et puis pour finir, on jette un œil maintenant à la météo de ce mardi. Il y a du soleil à Sydney où il fait 24 degrés. En revanche, c'est les nuages qui occupent le ciel de Melbourne avec des températures ne dépassant pas les 19 degrés. Nuages également à Perth avec 21 degrés. Il pleut à Adélaïde où il fait 20 degrés. Il y a quelques nuages aussi dans le ciel de Brisbane où le thermomètre affiche 27 degrés. Et le thermomètre monte jusqu'à 34 degrés à Darwin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.